De retour dans le magazine de Canal Sud, jeudi 13 janvier 2022. Donc, comme on en parlait tout à l'heure, en début d'émission, donc la grève des éboueurs qui durait depuis un mois a été levée ce matin, alors qu'elle durait voilà depuis le 16 décembre dernier. En cause notamment l'application zélée par Toulouse Métropole, leur employeur, de la réforme des agents territoriaux. Concrètement, cette modification, on va en parler, hein, de leur statut et de leur amplitude horaire menace leurs conditions de travail et défavorise clairement du point de vue des heures travaillées, en dépit de la pénibilité du travail des boueurs qu'on va présenter un petit peu pour commencer. Donc on verra que le rapport de force est notamment cristallisé autour du nombre de jours de récupération, ainsi que sur le fini partie ou partie finie, je me trompe à chaque fois, dont on va parler, c'est-à-dire le fait que les éboueurs défendaient leur droit à pouvoir rentrer chez eux une fois le travail fini, pratique qui est alors pénalisée par leur employeur Toulouse Métropole. Du coup, aujourd'hui, on est en compagnie de Jean-Marc, Agnès et pardon,
Et Thomas Barbie.
Et Thomas Barbie. Bonjour à vous. Est-ce que pour commencer, vous pourriez vous présenter et nous parler un petit peu de votre travail, de votre métier, en quoi il consiste pour nous qui vous voyons tous les jours, mais qui ne savons pas trop en quoi ça consiste.
Et peut-être, par exemple, une fois que vous serez présenté, nous expliquer une journée type, par exemple.
Bon, je vais commencer alors. Donc, moi, je m'appelle Jean-Marc. Donc, je suis éboueur au raisin. Moi, ça fait 11 ans que je suis à ce dépôt. Et je suis chauffeur. Donc, comme tout le monde, j'ai commencé ma manœuvre. Et ça fait 6 ans que maintenant, je suis chauffeur. Donc, après, pour vous expliquer un peu comment ça se passe, une journée type d'un éboueur. Donc, il faut savoir qu'à 5 heures, il faut qu'on soit habillé. Donc, on arrive à 5 heures. On fait, pour un chauffeur, on va chercher le badge de pesée, on va chercher le téléphone. Chaque tournée a un téléphone pour que les surveillants puissent nous joindre, parce qu'on a des surveillants qui s'occupent de 3 ou 4 tournées chaque jour. Donc si on a un problème sur le secteur, ou si on ne passe pas dans une rue, ou peu importe, qu'on puisse les tenir au courant, ou si eux, ils ont quelque chose à nous demander. Donc une fois qu'on a fait ça, on allume le camion, on fait le tour, voir que tout fonctionne, qu'on n'ait pas de feu de grillé, que les chaises, la benne, tout marche correctement pour aller sur le secteur. Donc ça nous prend une dizaine de minutes à peu près pour voir. Une fois que tout fonctionne, donc on récupère les manœuvres. On a un tableau le matin sur lequel on a nos noms, avec le numéro de tournée, le numéro du camion. Donc on récupère les manœuvres qui viennent avec nous.
Je t'interromps une seule seconde. Tu n'as pas tous les jours la même tournée?
Moi non, parce que je suis chauffeur voltigeur, donc je vais là où il manque du monde. Donc aujourd'hui, je peux faire le secteur, par exemple, je vais dire une bêtise, de la gare Matabio, demain je peux aller aux Isards.
D'accord, ok.
Mais voilà.
Ok.
Tous les jours, je conduis, mais je ne suis pas sur fixe, comme on appelle.
Et donc toi, tu es chauffeur, et derrière, on en parlait tout à l'heure un petit peu sur les conditions un petit peu de travail concrètes. En fait, il y a deux personnes, pour des raisons de sécurité, en fait, il y a deux personnes qui sont à l'arrière du camion, parce qu'en fait, il y a le risque de se faire prendre un bras ou quoi dans la benne, et du coup, il y a ce fameux bouton rouge qui fait que, c'est, voilà. En fait, on en rigole, mais que c'est quand même important qu'il y ait deux personnes pour éviter
le
pire.
Oui, voilà, parce qu'en tant que chauffeur, bon, on a une caméra dans le camion, mais on ne peut pas tout voir. Il faut qu'on fasse attention aux voitures qui sont garées pour ne pas les emboutir, il faut qu'on fasse attention aux reapers derrière, il faut qu'on fasse attention aux piétons, il faut faire attention aux vélos, parce qu'il faut faire attention à tout le monde. Hein. C'est pas facile, faut pas croire que. Et en plus, il faut faire attention aux reapers justement derrière. Bon, si on voit quelque chose, on les prévient. Un petit coup de klaxon pour dire qu'il y a du danger, voilà, qu'ils ramènent pas le bas, qu'ils se fassent pas accrocher par un piéton, enfin, ou par un cycliste qui arrive à pleine vitesse, parce que ça arrive, hein, faut pas croire. Hein, parce que le respect, ils en ont pas trop. Et voilà, donc on a ce bouton rouge qu'on appelle le bouton d'arrêt d'urgence, en fait, parce que oui, vous dites, on peut se faire attraper, c'est vite arrivé, quand on monte dans la chaise, le bras mal placé, c'est arrivé, il y en a un qui a perdu un doigt chez nous, au dépôt, comme ça. Donc un accident est vite arrivé, donc c'est vrai qu'il faut faire attention à tout, et c'est pour ça que nous sommes deux, ils sont deux derrière, quoi. Okay. Si jamais il y a quelque chose.
D'accord. Et une fois que tu as fini le secteur, c'est vous aussi qui allez au centre où on apporte les ordres.
Voilà, donc il y a l'usine d'incinération Mirail, là, cette nuit. Donc on va vider là-bas.
D'accord.
Donc pour le chauffeur, on va vider. On
revient. Les deux manœuvres ne viennent pas avec toi ?
Alors jusqu'à maintenant, ça dépendait. Des fois, ils venaient, des fois, ils ne venaient pas. Quand on avait fini parti, rien ne leur interdisait de partir avant. Quoi. Parce qu'une fois le secteur terminé, ils pouvaient partir. Donc forcément, pour eux, c'était intéressant. Parce que nous, ça nous fait quand même plus d'une heure de travail en plus. Parce qu'il faut qu'on aille vider. Si on est, par exemple, on a le dépôt à côté de la gare. Donc si on passe à côté, on pose les rippers. Il faut qu'on aille vider au Mirail. Donc l'usine est à côté du dépôt de Montlon au Mirail. Le temps de vider, si tout se passe bien, que ce n'est pas le bazar à l'usine et qu'il n'y a pas de queue, ça vous prend une dizaine de minutes de vider. Il faut revenir au dépôt, laver le camion. Donc tous les jours, on lave le camion une fois la tournée finie. Faire le plein maintenant, il faut qu'on fasse le plein tous les jours. Et ramener les papiers de la tournée finie, voir s'il n'y a pas eu de problème, faire le point avec les surveillants ou notre N+1, notre responsable hiérarchique. Quoi. Donc pour un chauffeur, ça fait... Si tout se passe bien, qu'il n'y a pas de bazar sur la rocade, qu'il n'y a pas de bouchon, et qu'on ne fait pas la queue ni à l'usine, ni pour laver le camion, une bonne heure en plus. Quoi.
D'accord. Est-ce que vous avez le même statut que les rippers, les chauffeurs ? Est-ce que vous avez le même salaire ? Est-ce
exactement la même chose pour... C'est un travail en plus.
D'accord. Merci pour cette description.
Est-ce que, Thomas, tu veux te présenter ?
Oui, alors du coup, je ne suis pas éboueur, je suis représentant syndical. Je travaillais avant à la propreté. Depuis un an, je suis secrétaire général de la CGT Toulouse Métropole. Donc je fais partie de l'intersyndicale qui s'est formée pour défendre les droits de nos collègues éboueurs qui étaient très fortement attaqués.
Avant de revenir justement sur les transformations qui ont affecté les conditions de travail des éboueurs là, ces dernières années avec différents niveaux de réformes, de leur statut, etc. Tout à l'heure, on en parlait, tu nous disais que sur l'ensemble de la métropole, il y a à peu près 600 éboueurs.
Oui, c'est quelque chose comme ça à peu près, hein. 630 ou quelque chose comme ça, autour de 600.
Ouais, un tout petit peu moins, je pense, il y a aussi, parce qu'il y a les collègues des ateliers qui sont comptés.
Oui, d'accord. Oui, enfin bon, ça tourne autour de 600, quoi, parce qu'ils ne sont pas non plus...
C'est ça.
D'accord.
Et du coup, pour comprendre un petit peu comment ça s'organise, donc votre employeur, c'est Toulouse Métropole, mais il y a plusieurs, on va dire, segments d'activité. Il y a le tri. Est-ce que tu pourrais nous dresser un peu un paysage pour qu'on comprenne les différentes l'organisation en fait de la collecte.
Toulouse Métropole s'occupe de tout ce qui est dépôt d'ordures, même le tri sélectif, tout ça, ça appartient à Toulouse Métropole, c'est eux qui gèrent. Donc en fait, il y a un service à part à Toulouse qui s'occupe que du tri. Ça, c'est valable que pour Toulouse, parce qu'après, si vous prenez les dépôts de, comme on disait, l'Union, Colomiers, eux, ils font le tri aussi. Il n'y a que Toulouse où c'est spécifique, les dépôts sont séparés, on va dire. Voilà, nous, on ne fait que les ordures ménagères. Les deux dépôts de Toulouse, que ce soit du Raisin ou de Montlon, font que les ordures ménagères. Et le centre de les bleus, quoi, comme on appelle le tri sélectif, qui est à Sesquière, s'occupe, lui, que de la collecte sélective.
Et donc, du coup, vous, en tant qu'éboueur, vous êtes agent de la fonction publique territoriale.
Oui.
Mais il se trouve qu'il y a aussi des boîtes privées qui sont arrivées sur le marché et qui... Oui.
Oui, oui, oui. Enfin, quand il y a eu une réforme, déjà en 2019... ce qu'il faut savoir, c'est qu'au début, on passait, nous, pour les deux dépôts de Toulouse, on passait trois fois par semaine. Donc, trois fois par semaine, on faisait le même secteur. Et maintenant, on n'est plus passé qu'à deux fois par semaine. Et donc, quand on est passé à ça, il y a ce qu'ils appellent les gros producteurs. Enfin, Thomas t'en parlera mieux que moi. Je crois que c'est à partir d'une dizaine de gros bacs, c'est ça ? Où c'est passé au privé. Donc, Suez et Veolia se sont partagés un peu le marché. Et donc, tout ce qui était, par exemple, nous, on avait Auchan, on avait des McDo, des Burger King, des Quick, enfin, tout là, ou des entreprises qui avaient vraiment beaucoup de bacs. Tout ça, c'est passé au privé, en fait.
Et les gens qui travaillent justement pour ces entreprises-là, vous les connaissez ? C'est des gens qui sont... Est-ce qu'on sait s'il y a plus d'intérim qu'ailleurs ou quoi ?
Alors là, pas du tout. On ne les connaît pas. Quoi. On ne les fréquente pas. On n'est pas du tout... On les voit de temps en temps. Là, on les a vus pendant la grève parce que quand au début, il y en a qui sortaient encore. Enfin, au début, quand on faisait grève, soi-disant du zèle, en fait, juste on leur montrait que ce n'était pas applicable les façons dont ils voulaient nous faire travailler à la lettre, en respectant le protocole. Ce n'était pas possible avec les secteurs qu'on avait de finir les secteurs. Donc, ils ont commencé à donner au privé. Donc, on a vu des camions de Veolia, de la COVID.
Ça, c'était
on a commencé ça au mois de novembre. Parce qu'on a commencé au début par leur montrer, on s'est allé gentiment. Quand ça a commencé à sortir, en fait, on leur a montré qu'ils nous ont dit, il faut respecter, pour votre sécurité, il faut faire...
Respecter un règlement
qui nous ont sorti. Donc on leur a montré que si on respectait ce règlement à la lettre, comme ils voulaient que ce soit fait, avec la taille des secteurs qu'on a aujourd'hui, c'était pas possible de finir les secteurs, en fait.
Très bien.
Donc tous les jours, chaque secteur, on rentrait, on avait une feuille en leur donnant le nom des rues qu'on n'avait pas fait. Ça tournait grosso modo une dizaine de rues par secteur, facilement, où c'était pas fini. Donc du coup, ils ont fait appel au privé pour rattraper un peu les retards. Et ce qu'il faut savoir, c'est que même le privé n'arrivait pas, avec une partie des secteurs qui étaient déjà collectés, à finir ce qu'on leur donnait. Donc comment voulez-vous que nous, on arrive à le finir ?
Je vous propose de faire une petite pause musicale pour après, juste après, revenir vraiment sur concrètement cette grève, comment elle a commencé et comment elle s'est poursuivie.
Going. Wait.
Midi 25 dans le magazine de Canal Sud 92.2, toujours en compagnie des camarades éboueurs qui vont nous parler un petit peu là dans cette deuxième partie d'émission de cette grève. Peut-être pour comprendre d'abord un petit peu la chronologie de ce que moi j'ai compris. En fait, il se trouve qu'il y a eu une loi de réforme des agents territoriaux votée au niveau national qui ensuite avait vocation à être appliquée de manière locale dans les métropoles. Et Toulouse était un petit peu la métropole toulousaine était en tout cas une de celles qui devait trouver des modalités en fait d'application de cette réforme-là. Peut-être pour comprendre un petit peu de quoi il s'agit, est-ce que Thomas, tu pourrais nous expliquer en quoi elle a consisté et quels ont été les enjeux à Toulouse de son application ?
Tout à fait. Tout part en fait de la loi de transformation de la fonction publique qui date d'août 2019. C'est donc une loi nationale. Dedans, il y a beaucoup de choses qui ont été combattues par de nombreux syndicats, dont la CGT. Je vais très très rapidement passer dessus, mais quand même pour vous donner une idée, parce que c'est une destruction du statut de la fonction publique qui garantit la neutralité du travail, qu'on ramasse de la même manière les ordures au Carme ou au Mirail, à la différence du privé qui cherche la rentabilité. Donc dans cette loi, il y a la possibilité de recours accru aux contractuels, quelle que soit leur catégorie, que ce soit des cadres ou des exécutants, ce qui fait des différences de salaire entre les agents. Si aujourd'hui il y avait, 5% de contractuels, demain on peut en avoir 15, 20, 30, et donc dans un service avoir la moitié des agents qui sont contractuels, et pour le même travail des gens qui n'auront pas le même salaire, ce que nous trouvons tout à fait anormal. Nous demandons à ce que tout le monde soit fonctionnaire. Il y a aussi dedans le recours plus facile au privé, aux privatisations, c'est-à-dire que jusqu'à présent, jusqu'avant l'application de la loi, si un service était privatisé, les agents avaient le choix entre soit rejoindre le privé et perdre le statut, soit perdre provisoirement le statut, soit rester dans la collectivité et être reclassé dans un autre service. Avec la loi de transformation de la fonction publique et les menaces d'ailleurs du maire-président sur les éboueurs, si le service est privatisé, les agents n'ont pas le choix et perdent leur statut et partent au privé. Aujourd'hui, c'est ce que prévoit la loi. Et donc dans cette loi... Et il y a encore beaucoup d'autres choses, hein, mais je ne vais pas tout détailler parce qu'on n'a pas la journée malheureusement. Il y avait aussi ce que l'on appelle les 1607 heures. Alors les 1607 heures, qu'est-ce que ce nom barbare ? Petit retour historique à nouveau, on se plonge dans le passé. Les collectivités territoriales, via la Constitution, bénéficient de la libre administration. Donc les collectivités territoriales, c'est les régions, les départements, les villes, les villages, les métropoles, toutes les intercommunalités. Donc c'est énormément de structures différentes. Et donc, elles doivent suivre bien entendu le cadre de la loi, mais ont, en tout cas avaient, une certaine souplesse, et notamment sur les jours de congé. Ce qui fait qu'au fil du temps, au vu du travail difficile de la fonction publique territoriale, parce qu'on parle de métiers qui travaillent tôt le matin, tard le soir, en horaire décalé, le week-end, de nuit, etc. C'est ça le type de métier, beaucoup plus que dans le privé. Donc il y a eu des accords permettant d'avoir plus de jours, selon les collectivités. Chaque collectivité avait des accords différents. À la mairie de Toulouse et à Toulouse Métropole, l'ancien maire, M. Baudis, avait accordé en tout 10 jours de congé en plus. Et... aujourd'hui, donc la loi des 1607 heures, qui a été amenée par M. Moudenc, parce qu'elle n'était pas prévue dans la loi, cette partie sur les 1607 heures, elle a été amenée, parce qu'en gros, chaque collectivité qui essayait de revenir dessus se heurtait à l'opposition des agents et finissait par perdre. Et donc ils se sont dit, si on fait une loi nationale, on les entube tous d'un coup et on n'en parle plus. Et donc ils ont posé ce dossier sur le bureau de M. Dussopt, qui s'est empressé, bien entendu, de le rajouter à la loi. Et les 1607 heures, c'est quoi ? C'est donc 35 heures de travail hebdomadaire et 25 jours de congé maximum annuel. Donc pour tous les agents, donc 15 000 agents de Toulouse Métropole et de la mairie de Toulouse, c'est une perte de 10 jours de congé et donc 70 heures de travail gratuites en plus pour la collectivité. Il prévoit donc la suppression de 600 postes sur les années à venir. Cette partie a été combattue, il y a eu des grèves en juin, qui n'ont malheureusement rien donné. Et la loi prévoit ce qu'on appelle, c'est ce qui est marqué dans le texte de loi, des sujétions particulières, ils l'écrivent eux-mêmes, pour, je n'ai pas la citation exacte, mais je cite à peu près, les travaux dangereux, pénibles, en horaire décalé, travail d'équipe, travail de nuit, travail de week-end, etc. À la CGT, on a dit qu'il y avait de nombreux métiers qui devraient pouvoir en bénéficier à la métropole. Et la métropole a dit qu'il n'y aura que les agents de collecte. Et que les agents de collecte, ils auront proposé 2 jours. Alors, on en arrive donc à qu'est-ce qui a été proposé concrètement, parce que à la limite, si c'était une perte, ben, comme tous les autres agents, ils perdent 10 jours et en compensation, on leur en donne 2. Bon, on estime que c'est pas assez, mais on va se dire ils sont dans le cadre de la loi en essayant de faire ça. Sauf qu'en fait, ils ne sont pas du tout restés là-dessus. Ils sont revenus sur tout un tas d'autres accords qui n'avaient pas vraiment lieu d'être avec les 1607 heures, mais qu'ils ont mis dans un espèce de package de « on vous enlève tout ». Pour vous expliquer le fini parti, déjà, il faut vous expliquer le travail des boueurs. Donc, mon collègue vous l'a dit tout à l'heure, Jean-Marc, mais il n'a pas parlé des... Il vous a décrit la journée, mais il n'a pas parlé des conditions, on va dire, de travail et de la difficulté. Pourtant, je sais qu'il les vit au quotidien. Vous êtes peut-être assis chez vous, sur une chaise. Je vous invite, si elle est assez solide, à monter debout sur cette chaise et à en descendre. Et puis à monter sur cette chaise et à en descendre. Et de le faire 400 fois, minimum. De le faire 400 fois dans la journée et de le faire tous les jours. Alors c'est très bien, ça va vous faire les muscles, mais vous verrez que c'est pas du tout agréable, que c'est quelque chose de difficile. Et là encore, c'est gentil, vous le faites chez vous, au chaud, avec la climatisation quand ce sera l'été. Eux, ils le font dehors,
et
l'hiver.
Et sans poids.
Et sans poids. Non, alors, quand ils montent, normalement, ils montent sans le poids. Mais ils le font sous la pluie, ils le font avec le vent, ils le font sous la neige, ils le font avec le froid. Aujourd'hui, je pense que vous avez vu la température qu'il fait, même avec des gants, on a froid en marchant. Alors imaginez avec le camion, quand il se déplace, le vent, monter, descendre, amener le bac, le faire soulever, le reposer, le ramener, remonter, redescendre, remonter, redescendre. C'est ça aujourd'hui le quotidien des éboueurs. Et c'est pour ça que... À nouveau, M. Baudis, et pourtant, politiquement, je ne suis pas du tout d'accord avec lui, mais il faut rendre à César ce qui est à César, avait mis à l'époque en place le fini parti, ce qui était un système gagnant-gagnant, c'est-à-dire donner aux éboueurs le fait de pouvoir partir une fois leur tournée terminée, et pour la collectivité, le gros avantage, c'était les camions ne circulent pas trop longtemps, et les gens, quand ils commencent à venir au travail, en ville, pour les courses ou quoi que ce soit, la ville est déjà propre. Aujourd'hui, ce système est totalement remis en cause et c'était donc les premières propositions de la direction. Une feuille de papier, alors que ça faisait un an qu'on demandait des négociations hein, puisqu'on savait que ça arrivait. Et la collectivité a attendu donc mi-novembre pour nous faire des propositions. Une feuille de papier disant perte de 10 jours de congé comme tout le monde. Jusque-là, on avait dit rien de choquant même si on n'était pas d'accord bien évidemment, mais on s'y attendait. Fin du fini parti et fin de tous les accords qu'il y avait eu jusqu'à présent. C'est là qu'on s'est dit, non, ça n'a pas de rapport avec les 1607 heures. Au début, la collectivité nous a dit, si, c'est la loi qui nous y oblige, patati patata, ils ont quand même fini par reconnaître et même faire des propositions qui montrent que c'était tout à fait légal ce qu'il y avait. Voilà. Et pour bien finir de comprendre, les derniers accords en fait datent de 2019, quasiment finalement en même temps que la loi de transformation de la fonction publique, mais là ce sont des accords locaux. Il y a eu un changement de passage des tournées, notamment à Toulouse et aussi à l'Union, enfin au dépôt de l'Union, qui fait un peu l'est toulousain, le nord-est toulousain. Il y a eu donc une diminution du nombre de tournées, une diminution du nombre d'agents, une diminution du nombre de camions, et donc une augmentation de la charge de travail, puisqu'ils devaient faire des tournées plus longues, et surtout des poubelles plus lourdes. C'était la double peine. Puisqu'ils passaient moins souvent les prendre, donc quand ils les prenaient, c'était plus chargé, puisqu'ils les prenaient une fois au lieu de 2, par exemple. Et les éboueurs n'ont pas été d'accord, il y a une grosse grève qui a été menée, l'intersyndicale était plus petite d'ailleurs à l'époque, il me semble, et un accord a été trouvé. En contrepartie, la moyenne des tournées devait être calculée pour qu'en courant et en se donnant à fond, ils aient en moyenne 5h15 de travail, et donc qu'ils puissent partir 1h45 plus tôt. Donc parfois c'était plus tôt, et parfois c'était plus tard. C'était une moyenne qui a été à peu près respectée, mais encore une fois, en courant, et je peux vous dire que c'est très sportif. Moi personnellement, je serais incapable de suivre la moitié d'une tournée, je vous le dis clairement, et j'ai 35 ans. Et il y en a qui ont 50 ans et qui continuent à le faire. Donc en contrepartie, ils ont obtenu cette moyenne, et la double compensation des jours fériés, c'est-à-dire que quand ils travaillent un jour férié, ils avaient le droit et à un jour de récupération et à un forfait en argent, et, ou juste de la récupération, et donc 3 jours à ce moment-là. Donc c'était en compensation des pertes qu'ils avaient. Et aujourd'hui, avec les premières propositions de la métropole, c'était « on vous enlève tout ce qu'on vous a donné ». Par contre, on laisse le nombre de tournées tel qu'il est aujourd'hui, on ne remet pas les camions tels qu'ils étaient avant. Donc, pour nous, c'était une trahison de la parole donnée, puisque c'est ce qui avait mis fin à la grève hein, à l'époque. Si on avait dit aux éboueurs, mais bon, dans 3 ans, on vous l'enlève, ils nous auraient dit, ben non, enfin, alors on continue à se battre, on va pas travailler plus pour avoir des compensations pendant 3 ans, et c'est tout. Et donc voilà, les premières propositions de la direction étaient fin du fini parti, fin de la double rémunération et perte de 10 jours de congé.
Du coup, on comprend bien qu'il y a eu maintien de la charge de travail avec baisse des jours de récupération des heures de travail dans la journée, enfin, et augmentation des heures de travail dans la journée.
Tout à fait. Il y a donc une perte financière et une augmentation au final de la charge de travail, même si elle reste constante quotidiennement, vu qu'ils vont travailler plus de jours, cette charge augmente.
Et du coup, est-ce que vous pouvez nous décrire un petit peu les discussions que vous avez eues justement d'abord en novembre, avant de commencer commencer la grève en décembre? Comment est-ce que ça a commencé en fait ce mouvement?
Très mal, comme je vous le disais. On savait que la loi devait être appliquée au 1er janvier 2022. Donc déjà, les discussions avaient été très houleuses pour l'ensemble de la collectivité. Et quand il y avait eu des grèves fin mai, début juin, la promesse de la direction et la signature de la direction dans l'accord de fin de grève stipulait des négociations à la rentrée. Alors à la rentrée, on aurait dû être plus précis, on aurait dû demander l'année peut-être, parce que nous on s'imaginait la rentrée en septembre. Alors je sais pas, peut-être qu'ils rentrent plus tard, ou je n'ai pas compris. En tout cas en septembre, aucune nouvelle. En octobre, aucune nouvelle. Et donc mi-novembre, cette réunion de discussion, alors là je mets des très gros guillemets, hein, puisqu'ils nous ont donné ce papier dont je vous ai parlé en disant voilà ce que l'on va appliquer, ça vous va? Non? Ah bah ok, tant pis. Voilà, c'était ça la première discussion. Donc le premier choc passé, parce que je vous avouerai, alors j'ai peut-être été un peu naïf, hein, je ne m'attendais pas du tout à ce qu'ils fassent autant de pertes, j'étais assez choqué. Nos collègues éboueurs ont été outrés et très vexés de voir un papier pareil, aucune discussion, rien du tout, donc on est passé expliqué. Et c'est monté une intersyndicale, donc, alors que je n'oublie personne, composée de FO, l'UNSA, de Sud, de la FSU, de la FAFPT et donc bien évidemment de la CGT. Nous avons continué à demander des discussions, puisque donc quand un changement pareil s'opère, il doit d'abord passer ce qu'on appelle le comité technique. Donc le comité technique, c'est une instance paritaire avec des représentants syndicaux élus et des représentants de l'administration, qui donne un avis, en fait, qui après, passe en conseil, donc pour nous, en conseil métropolitain. Et normalement, le conseil métropolitain est censé suivre l'avis du comité technique. Il n'y a pas d'obligation, mais bon. Et donc, en fait, la réunion suivante, c'était le comité technique, donc qui entérinait, de fait, toutes les pertes. Nous, on a dit, mais non, il faut se voir avant. Enfin, on vous a dit qu'on n'était pas d'accord avec ça. Et la prochaine réunion que vous nous proposez, c'est pour voter. Donc, c'est pas possible. On va voter contre, vous allez le passer en force. Et il n'y a pas eu de discussion. Donc, on a pris la décision de boycotter ce comité technique. Et je dis bien juste le comité technique. On était ouvert à toute réunion, puisqu'il y a eu des mensonges dans la presse de M. Moudin disant qu'on avait fait la politique de la chaise vide, qu'on était venu à aucune réunion. C'est faux. Enfin, à limite, si, c'est vrai, c'est qu'il n'y a pas eu de réunion, donc on ne pouvait pas venir, c'est sûr. Donc on a boycotté le comité technique et on a tous les mails qui peuvent le prouver en demandant à chaque fois des rendez-vous, en disant on veut se voir. Comme on ne pouvait pas se voir, donc les éboueurs entre eux ont discuté, puisque c'est toujours ça, nous on porte la parole de nos collègues, et ont décidé de dire, bon, ils ne doivent pas se rendre compte de ce qu'ils nous demandent, donc on va appliquer leur règlement. Parce que, outre ça, ils ont mis en place un règlement de collecte différent de ce qu'il y avait avant, et beaucoup plus, alors je ne vais pas dire strict, mais difficile à appliquer en tout cas. Et donc, dans une optique de conciliation et de montrer, bah, écoutez, vous ne voulez pas parler avec nous, mais on va vous montrer que ça ne fonctionne pas, ils ont appliqué ce règlement en avance. Et très vite, bah, comme l'a dit Jean-Marc, ça ne fonctionnait pas. Les tournées n'étaient pas finies. Il y a eu des ordres abusifs de mise en danger. Donc quand on sait que leur argument pour mettre fin au fini parti, c'est de la sécurité des agents. Bizarrement, ce n'est pas de diminuer la charge de travail, hein, c'est d'augmenter le temps de travail pour la sécurité. Je ne comprends pas, mais bon, c'est assez original. Donc voilà, le mouvement a débuté comme ça. Il y a eu donc d'abord le boycott du comité technique. Quand il n'y a pas le quorum, donc assez de personnes pour voter, il est automatiquement, obligatoirement, reporté. Ils en ont très vite organisé un deuxième, comme la loi le leur permet. Et là, quoi qu'on fasse, il est valide. Donc même s'il n'y avait aucun syndicat qui se présentait, ça serait passé. On a obtenu enfin une réunion avant, ce qui a permis de le redécaler à nouveau. Rien n'est sorti pendant cette réunion. On était très loin. Pour vous donner la différence de point de vue, donc à la base, ils proposaient 2 jours en compensation de toutes ces pertes. Ces pertes, si on calcule donc 1h45 en moyenne quotidienne, fois environ 220 jours dans l'année, plus les 10 jours de pertes de congés, plus les pertes sur les jours fériés de jours de compensation, ça fait environ 73 jours travaillés en plus. Alors, ce n'est pas 73 jours nets, c'est des heures par-ci par-là, hein, c'est le cumul. Mais entre l'année dernière et cette année, il est demandé aux éboueurs l'équivalent de 73 jours de plus de travail. Et en compensation de ça, pour dire « Ah oui, effectivement, quand même, vous en avez d'autres coups », on vous en propose 2. À titre de comparaison, puisque c'est M. Moudenc à nouveau qui l'a faite, la police municipale en a eu 11. Alors, c'est totalement mérité. Là, on ne revient pas dessus. Il y a aucun souci là-dessus. Ils ont une perte de 10 et on leur propose 11 en compensation. Très bien. Comment on peut prendre ça en exemple quand il y a une perte de 73 et on dit au maximum du maximum, on montera à 11 jours de compensation, puisque, regardez, eux, on leur a donné 11, on ne peut pas donner plus. Enfin, c'est pas la même perte qu'ils ont subie. Ils ont subi 10 jours de perte. Là, c'est 73 jours. Et ça, ils n'ont pas voulu l'entendre. Donc la première revendication des éboueurs, c'était le maintien du fini parti. Et là, le chantage a commencé. Et j'insiste sur le mot chantage, puisque dans ces premières réunions, la collectivité a été très claire avec nous. Elle nous a dit, vous avez plusieurs points que vous nous avez amenés. Très bien. Le premier, c'est le fini parti. Soit vous l'enlevez, soit on ne discute pas. Si vous voulez qu'on puisse discuter, il faut que vous l'abandonniez. Ça ne s'appelle pas des discussions, ça s'appelle du chantage. On a donc dit, écoutez, on prend acte de ce que vous nous dites, on va retourner voir les éboueurs et on va discuter avec eux. Vous l'imaginez, ils n'ont pas été contents du tout. N'empêche qu'ils ont fait l'effort de dire, eh ben ok, on est prêt à s'asseoir dessus. Par contre, on veut des propositions concrètes derrière. C'est pas on perd tout et on discute, on verra. Non. Et donc la proposition suivante, c'était d'utiliser les jours de sujétion, en fait le pourcentage de pénibilité qui est prévu par la loi, qui peut être reconnu, pour être utilisé non pas en jours de congé, mais étalé sur toute l'année pour leur permettre non pas d'avoir le fini parti, mais d'avoir un horaire fixe de fin de tournée qui les ferait travailler moins de 7 heures par jour. Cette proposition a été balayée d'un revers de la main par la direction qui a dit on fait un effort, on monte à 4 ou 5 jours. J'ai plus le chiffre exact, donc je ne voudrais pas mentir et je m'en excuserai bien évidemment. Donc c'est 4 ou 5, je ne sais plus exactement. À nouveau, insuffisant.
Je t'interromps une seconde. Quand tu dis je retourne voir les collègues et je leur demande, et donc les collègues décident d'acter au okay, que le fini parti, on s'assoit dessus. Ça se passe comment, cette discussion? Ça se passe en AG? Ça se passe, est-ce que tous les centres sont réunis? Est-ce qu'il y a un vote? Comment ça se passe?
Alors, normalement, ça se passe sur chaque dépôt. Donc, pour expliquer comment fonctionne Toulouse Métropole, il y a 37 communes. Et au niveau du ramassage des ordures, il y a donc 6 dépôts d'éboueurs. 3 à Toulouse, comme est expliqué tout à l'heure, hein, 2 pour Montlon et Raisin, 2 pour la collecte des ordures ménagères et 1 pour la collecte du tri sélectif, et donc 3 sur la périphérie, un qui est situé à L'Union, un autre qui est situé à Colomiers, le dernier qui est situé à Bruguière. Donc c'est très compliqué de réunir l'ensemble, surtout quand on n'est pas en grève, mais même quand c'est en grève, c'est très compliqué de réunir l'ensemble. Donc c'est chaque dépôt qui se réunit. Mais bien entendu, déjà, les syndicats font le lien, mais les éboueurs entre eux, de par le fait des mutations de temps en temps, enfin, ils se connaissent entre dépôts, ils arrivent à communiquer entre eux. Donc ça a été décidé, oui, difficilement, hein, parce que ça a été un sacrifice pour eux, mais ils ont fait ce pas vers la direction en espérant que les propositions alternatives qu'on portait, donc d'avoir une réduction quotidienne du temps de travail, seraient acceptées. Ce qui n'a bien entendu malheureusement pas du tout, quasiment pas été le cas, puisque finalement ils nous disaient que c'était illégal. Que c'était illégal de finir plus tôt. Finalement, dans leur dernière proposition, vous verrez que ça a changé.
Légal.
Voilà. Donc, les revendications à la base étaient le maintien du fini parti, 10 jours de compensation pour ne pas avoir de perte de jours, et une augmentation de primes pour pouvoir compenser la perte des jours fériés. Et cette augmentation de prime, c'était donc une prime collective de qualité qui actuellement est de 300 euros bruts par an pour les dépôts toulousains et de l'Union. Et on demandait à ce qu'elle soit étendue à tous les dépôts, aux 6 dépôts, et qu'elle passe à 600 euros. Ils l'ont montée à 450 euros au fil des négociations.
Pour tous les dépôts ?
Pour tous les dépôts.
D'accord.
Mais cette prime est variable dans le sens où c'est une prime de qualité. Donc en fonction du nombre d'appels pour se plaindre, en fonction de l'absentéisme, en fonction de plusieurs critères, elle peut diminuer. Elle est individuelle pour chaque agent.
D'accord.
Je propose de faire une courte pause musicale et de se retrouver juste après.
On est 5 dans la 4, à 120 sur la A6, où Dima dit, j'sais plus quoi faire, j'sais plus quoi dire, j'sais plus quand taire, j'sais plus quand dire. Eh, j'pars du rire au drame, d'aimer Césaire à Jules César, d'aimer Césaire et juste des armes dans ma cité, ça vend la mort. La plupart est loup à l'air, la plupart des loups à l'air, t'as pas de gérant, c'est en indé, démarre ton terre, moi j'prends mon thé, j'appelle le sang. RDV devant le pâté, on se pose, on parle pendant des heures, ça comptait toutes nos années. Nostalgique et la mentalité, pas de BFM, on côtoie tous le taux de mortalité mortel ici. Les photos sont trash, regarde comment c'était, Hatar, d'où nos étés, Super CN dans CNCA, le 37 c'est GTO, y'a les grands en GTI et les petits sur GTA. Y'a les taupes, mais toi t'es où? Aimez, vous faites pas les fous. Y'a que la mort à l'heure au rendez-vous, vous rendez fou. Le monde est faux, pense avoir dénoué le vrai du faux. Le faux du vrai, le faux des faux, le vrai des filles. C'est peut-être ça mon grand défaut, c'est peut-être ça mon grand défi. Car la vie qu'on mène, tous dans le même HLM. Y'a que la rue qui change, on rêve tous de ce putain de gâteau. Mais les anciens ont pris toute la farine. La Tessie, ouais, c'est foireux, 21 piges, j'ai déjà foiré. J'ai les mitaines, j'fais la mi-temps, c'est la banlieue qui m'a mis dedans. Et j'ai peur qu'avec l'âge, je ne devienne qu'un passant pesant. Quand votant il peut peser, dans tous les cas il se fait baiser. Dans les cités on est miné, quelquefois on est mignon. Une Clio, deux, trois balles à frais. Genre de la tête, j'ai parachute, alors c'est sûr que j'ai pas raté. Chaque destin a sa peine, mais chaque défunt avait sa plume. Cristal inédit, limite inaudible, remballe tout notre but. Fusil, lunettes, Kennedy. Genre de la tête, j'cape mes boyards, cherche de boyards, cherche de boulard, cherche de boom. Équipage et taille, bye. Si on se clash, première phrase est time, boy.
J'suis dans le fond de la glace, juste en face de la tête. En bas c'est la hesse, j'ai les bons anciens, donc les bons petits. J'suis dans le fond de la glace, juste en face de la tête. En bas c'est la hesse, j'ai les bons anciens, donc les bons petits. Hey.
On a tous le même jeu, mais chacun ses cartes. On pensait tous finir vieux, mais chacun ses cartes. Elle voulait mon cœur, mais c'est qu'elle écarte. Limite une escorte, moi j'ai pas le vécu de Savastano. Mais bon, Savastano, tu pourras pas nous détrôner. Arrête de te la donner, je veux ta femme puis Madonna. Sur Insta, je suis abonné, c'est moi le rebeu, on fait bonnet. À la route ou au corner, au centre ou au panier. Toujours posté comme un douanier, je répète ou pas. Car la vie qu'on mène, tous dans le même HLM. Y'a que la rue qui change, on rêve tous de ce putain de gâteau. Mais les anciens ont pris toute la farine. La Tessie, ouais, c'est foiré, 21 pistes, j'ai déjà foiré. J'ai les mitaines, j'fais la mi-temps. C'est cette putain de banlieue qui m'a mis dedans. Cette putain de banlieue qui m'a mis dedans.
J'suis dans le fond de la glace, juste en face de la tête. En bas c'est la hesse, j'ai les bons anciens, donc les bons petits. J'suis dans le fond de la glace, juste en face de la tête. En bas c'est la hesse, j'ai les bons anciens, donc les bons petits. Hey.
C'était Hotman, la vie qu'on mène sur Canal Sud 92.2. Il est midi 47 minutes en compagnie de Thomas et Jean-Marc, syndicalistes pour l'un et boueurs pour l'autre, qui nous racontent ce mouvement de grève d'un mois à Toulouse. Voilà. Et donc du coup, on a commencé un petit peu, tu as commencé par nous présenter un peu le début de cette chronologie de la grève, déjà qui avait commencé en juin dernier. Mais justement, peut-être pour poursuivre, est-ce que tu pourrais nous expliquer, il y a eu un, tu nous expliquais qu'il y avait une première étape de chantage de la part de la direction en demandant, on va dire, à l'entrée même des demandes de négociation, d'abandonner des points, on va dire, centraux dans les revendications des éboueurs. Donc déjà, ça commençait mal. Comment ça s'est poursuivi? Parce que voilà, dans une grève qui dure un mois, il y a eu plusieurs étapes, on va dire, et puis un durcissement aussi à chaque moment. Est-ce que tu pourrais poursuivre justement ce que tu étais en train de nous raconter?
Oui, pas de souci. Tout d'abord, je voudrais commencer par vraiment envoyer un message de soutien à l'ensemble des éboueurs pour le mouvement qu'ils ont mené, qui a été exemplaire du début à la fin. Il n'y a eu aucun débordement. Ils ont commencé par montrer que le système ne fonctionnait pas devant la sourde oreille. Ils ont répondu au chantage en disant « Très bien, on est dans la négociation, on accepte votre chantage », ce qui était quand même vraiment pas facile. Et derrière, ils n'ont reçu que du mépris, et pourtant, du mépris et des mensonges, et pourtant, ils sont restés droits et ils ont tenu jusqu'au bout de manière on ne peut plus réglo. Donc vraiment un gros message de soutien à eux tous pour tout ce qu'ils ont fait. Donc effectivement, devant l'échec des négociations, et malgré les preuves que le système ne fonctionnait pas, puisque la collectivité a tout de suite fait appel au privé pour essayer de ramasser un peu les restes des tournées, mais même eux n'arrivaient pas à finir, alors qu'ils ne respectaient aucune des règles élémentaires de sécurité. On parlait de deux Reapers derrière tout à l'heure, ben, ils étaient tout seuls, donc imaginez s'ils se ratent, ils se retrouvent coincés, il n'y a personne pour appuyer sur le bouton rouge. C'est pour ça que syndicalement, on a réclamé depuis des années, on a fini par obtenir de Toulouse Métropole qu'il y ait obligatoirement deux Reapers derrière. Maintenant, c'est très très rare qu'il n'y ait plus qu'un Reaper. Donc la collectivité a tout de suite fait appel au privé, et même comme ça, les rues ont commencé à déborder. Mais devant la non-avancée et vraiment le grand écart, hein, je vous disais tout à l'heure, la perte pour les éboueurs de plus de 70 jours de travail, au final, enfin, l'augmentation de la charge de travail de l'équivalent de plus de 70 jours, le ras-le-bol est quand même assez vite arrivé, et donc la grève a commencé. Les négociations n'ont pas beaucoup avancé pour autant, puisque la direction faisait des pas de fourmi. Quand on a lâché le fini parti, pour nous, c'était vraiment un pas de géant, enfin quelque chose, un acquis historique, c'était vraiment le numéro un, quoi. On s'attendait à ce que derrière, ils disent « Bon, ok, ils ont fait un pas énorme vers nous, on va faire un pas énorme vers eux. » Et ils nous proposent un pas énorme deux jours de plus. Enfin, c'était humiliant. Aller expliquer ça aux collègues, dire bah, « Les gars, voilà ce qu'ils proposent. » La réponse est « Vous foutez notre gueule, là, ils n'ont pas dit ça. » Si, c'est malheureusement exactement ce qu'ils ont dit. Donc, il y a eu quelques réunions. Et on arrive là au 21 décembre, où on a une réunion où ils montent à 7 jours, il me semble. Et oui, ils nous disent que bon, il faudrait quand même se revoir assez vite parce que alors ils disent eux qu'ils ont dit que c'était le DGS qui serait en vacances, le directeur général des services. On a entendu juste qu'il serait en vacances. Bon, passons sur ce quiproquo. Et donc le 21, on prend acte de la non-avancée des négociations. Et dès le 22, du coup, on dit, bah, vu que vous allez être en congé la semaine de Noël, alors que nous, nos collègues seront en grève, perdront leur argent, passeront moins de temps en famille dans cette période, bah, il faut qu'on se revoie tôt. On vous propose de se revoir soit aujourd'hui, soit demain, enfin, quand vous êtes disponible. Aucune réponse de l'administration pendant plus de 15 jours. On s'est donc retrouvé à la rentrée, le 2 ou le 3, en n'ayant eu aucune réponse à notre invitation. On a donc relancé et on a obtenu un rendez-vous le mercredi. Et leur excuse à ce moment-là était « Ah oui, non, mais on avait dit qu'on voulait bien se revoir, mais si vous aviez des nouvelles propositions. Or, vous n'aviez pas de nouvelles propositions dans votre mail, donc vous n'avez pas répondu. Vous auriez pu au moins dire bah, « Vu que vous ne nous avez pas apporté de nouvelles propositions, inutile de se rencontrer ou quelque chose. » Enfin, la moindre des politesses, je ne sais pas. Moi, quand je reçois un courrier, j'y réponds. Eux, non. Et c'était donc ça leur argument. Et pour nous, c'était un crachat vraiment envers les collègues, puisque, comme je vous le disais, ils étaient en grève. C'est dur. Il n'y a pas de secret. Quand on est en grève, on n'est pas payé.
Et du coup, je me permets d'intervenir. Donc, le moyen de lutte que vous avez adopté, c'est la grève. Et à partir de là, au bout, donc, la grève a commencé le 16 décembre. Là, tu me parles d'une date mercredi de la rentrée, on doit être le 5 janvier. Donc, la grève visiblement n'a pas d'effet, enfin, en tout cas ne fait pas avancer les négociations. Est-ce qu'à un moment donné, certains d'entre vous ou vous parlent d'une lutte plus offensive?
Alors, ça en parlait bien évidemment dans les dépôts. Jean-Marc pourra vous dire, hein, puisqu'il il était au cœur, bien évidemment. Devant la non-réponse, effectivement, il y a eu un énervement qui est monté. Et surtout, la goutte d'eau qui a fait déborder le vase, c'est donc M. Vincent Terrail-Noves, qui est le vice-président chargé du ramassage des ordures, entre autres, et le maire de Balma, a tweeté publiquement, on a pris des captures d'écran pour pas que ce soit effacé, le 31 décembre, alors que depuis le 21, nous ne les étions pas vus et qu'on était partis sur un désaccord total, a tweeté pour rassurer ses concitoyens à Balma, « Ne vous inquiétez pas, ce n'est plus qu'une question de jours. Les discussions avancent bien avec l'intersyndicale. Nous avons trouvé des points d'accord. » Alors qu'il n'y avait eu aucune discussion et surtout aucune réponse à nos demandes de rendez-vous depuis 10 jours. Quand les éboueurs ont lu ça, ils nous ont dit « Mais vous les avez vus, pourquoi vous ne nous parlez pas ?» Enfin, ben non, il ne les a pas vus, donc il n'a discuté avec personne. Alors, soit il invente des discussions, soit il parle de choses qui avaient eu lieu 10 jours avant et où il n'y avait eu aucun point d'accord. Donc ce mépris de faire croire que les choses avancent, que tout va bien, etc., alors que c'était totalement faux, et puis on le voit, hein, puisqu'on sort à peine du problème, les poubelles se sont entassées. Et c'est après ça, du coup, c'était la réunion, entre guillemets, de la dernière chance. On leur a dit, attendez, maintenant, on a ce rendez-vous le mercredi. On leur a demandé, on ne peut pas passer dans un mouvement dur alors qu'ils ont fini par nous accorder ce rendez-vous. Et on avait beaucoup d'espoir sur ce rendez-vous, qui est quand même... Enfin, ils ont vu que les éboueurs avaient tenu, les vacances de Noël étaient passées, que les rues étaient pleines d'ordures. Enfin, c'était invivable. Et là, ben, ils sont passés, ils ont rajouté, pareil, un ou deux jours, ils sont montés, c'est à ce moment-là, il me semble qu'ils sont montés à 9 en nous disant, et alors là, le ridicule ne tue pas, hein, mais vous savez, on est prêt à aller à 11 à une prochaine rencontre. Hein. Ben, si vous êtes prêt à aller à 11, dites 11, pourquoi vous allez attendre quoi? Qu'il y ait encore une semaine de grève et pour nous dire, allez, on se rencontre et on dit 11, et puis allez, on va repartir sur une... Enfin, c'est ridicule. Et donc, effectivement, à ce moment-là, les éboueurs, donc, quand ils étaient en grève... Simple, il ne restait pas trop sur les dépôts, mais c'était vraiment la dernière négociation possible. On a dit, ben là, on peut, enfin, ça ne sert plus à rien de parler, on ne va pas s'en sortir. Et donc les éboueurs ont décidé, alors chaque dépôt à son tour, ils ne sont pas tous partis en même temps ou tous le même jour, mais quand même assez rapprochés, de passer donc dans une phase de blocage des dépôts, avec donc les dépôts fermés et aucun camion qui ne pouvait en sortir.
D'accord. C'était quoi le taux de grévistes par rapport aux non-grévistes?
Alors, il est très variable et le problème, c'est que c'est un métier très difficile où il y a de nombreux blessés, donc des blessés malheureusement aussi souvent sur le long terme. Donc il y a énormément de contractuels qui les remplacent. Ces contractuels, et ben, étant en CDD, malheureusement ne peuvent pas se mouiller et on les comprend, hein, puisque ils ont une fin de contrat qui peut arriver assez rapidement et merci, au revoir. Donc eux ne peuvent pas se permettre de faire grève. Ceux qui sont en arrêt maladie, ben, logique, ne sont pas grévistes. Donc si on prenait le taux sur les titulaires qui étaient aptes à travailler, le taux est monté à plus de 50% sur les gros dépôts.
D'accord. Donc en termes de pratique dans cette lutte, on a eu une grève, on a eu les blocages de dépôts. Est-ce que autre chose a été imaginé ?
Alors oui, plusieurs actions ont été envisagées par l'intersyndicale et finalement n'ont pas eu lieu entre la pluie qui a posé des problèmes le jour même ou le fait qu'on a eu une réunion finalement sur le jour d'une autre action. Disons que si le conflit avait continué, il y aurait eu très certainement des actions... On peut pas trop en parler,
non,
parce
sûr,
que voilà, sinon ça gâcherait l'effet de surprise pour la prochaine fois s'il y en a une.
Bien sûr. Et j'imagine que parmi ces grévistes, il y avait des gens non syndiqués.
Tout à fait, oui.
Et donc, est-ce que c'était des personnes qui avaient des propositions, d'autres pratiques
Alors, d'autres pratiques, je ne saurais pas dire. Des propositions, c'est des propositions collectives. On n'est pas arrivé auprès des éboueurs en disant « alors il faut que vous demandiez ça, ça, ça et ça ». voilà, vous perdez ça. Nous, on est peut-être des solutions, parce qu'il faut proposer des solutions légales, hein, bien évidemment, et ben, ça, c'est notre job. Donc, de leur amener des pistes, de voir lesquelles les intéressaient, lesquelles ne les intéressaient pas, et après, ils discutaient entre eux, syndiqués, non syndiqués, et ils trouvaient un consensus. Et là, c'était voilà, avec les blocages, c'était d'autant plus facile que blocage dit aussi une occupation, puisqu'on ne peut pas mettre des poubelles et partir, sinon ça va être ouvert très rapidement. Et c'est des grands moments de solidarité, d'où les odeurs de palettes brûlées, mais voilà, où et ben, chacun, on va faire les courses, on essaye, les syndicats, de donner de l'argent pour qu'ils puissent faire les courses, puisqu'ils mangent sur place, certains dormaient sur place, enfin... vous imaginez les températures, c'est des moments difficiles, mais aussi des moments de fraternité assez intense, que ce soit entre les syndiqués, les non-syndiqués. Je veux dire, là, il y a. Alors parfois, il peut y avoir de l'animosité, bien entendu, avec la fatigue, avec tout ça, mais c'est quand même des moments fraternels très, très importants qui soulèvent les liens.
Et toi, Jean-Marc, qui est moins impliqué syndicalement, qu'est-ce que tu en penses de confiner la pratique de la lutte à la légalité ?
Bah, de toute manière, après, on est bien obligé de rester dans des choses légales aussi. On peut pas faire tout n'est pas permis non plus. Il faut quand même rester dans les règles. Comme il a dit, on a quand même, c'est quand même parti assez gentiment. On a montré que c'était pas possible. De là, tous les jours, on se faisait taper sur les doigts. Mais comment vous faites ? Ça fait X, ça fait 2 ans qu'on vous a refait les secteurs. Vous les terminez. Maintenant, vous terminez plus les secteurs. Vous foutez de nous. Donc, il y en avait. Ça arrivait qu'on avait les surveillants du matin. Toute la tournée derrière pour voir si vraiment on se foutait pas de leur gueule, pour parler vulgairement. On leur a montré que non, quoi, qu'on faisait appliquer le règlement à la lettre et qu'avec les secteurs qu'ils nous avaient donnés, c'était pas possible. Donc ils ont fait appel à ce privé n'a pas réussi non plus. Donc on a dit bon, on va commencer à partir dans un moment de grève, hein, parce que ça porte pas ses fruits. Donc il y avait quand même, avant d'arriver au blocage dur, c'est parce qu'on arrivait là aussi, parce qu'il y avait quand même, je parle moi pour mon dépôt, on avait quand même 5-6 camions qui sortaient tous les jours. Donc ils étaient malins, même si c'était pas le jour de collecte du secteur, ils vous envoyaient sur un autre secteur faire la ville en priorité, alors que ce n'était pas le jour de collecte, mais pour qu'au moins le centre-ville soit propre, hein. Le Mirail, les cités, on s'en fout, hein. C'est pas grave, ça se voit pas, hein. Comme on dit, hein, la misère.
Si je peux préciser, des camions de contractuels, en plus qui n'avaient pas le choix. Et sur les actes illégaux, ben déjà le blocage est interdit par la loi, puisqu'on empêche les travailleurs de travailler. Mince, qu'est-ce qu'on est méchant. Et il faut revenir dans le contexte du durcissement qu'il y a eu depuis les dernières élections municipales. Ça reste la même municipalité, hein, c'est le même maire-président qu'avant, mais ce ne sont pas les mêmes élus et ce n'est pas du tout la même politique. C'était déjà une politique de droite avant, hein, mais c'est devenu une politique de droite bien plus dure. Et les derniers, alors déjà, toutes les négociations, on le voit, c'est un carnage. Et les luttes aussi, quand on a fait grève en milieu d'année, justement, contre les 1607 heures, la grève a duré 2 jours. Hein, la grève dure a duré 2 jours. Les sanctions sont tombées immédiatement sur les agents. Et en fait, la loi n'est pas respectée. C'est-à-dire que les sanctions qui sont tombées, en fait, ne sont pas des sanctions réellement disciplinaires. Ce sont des rappels à l'ordre qui ne rentrent pas dans le cadre légal, mais qui peuvent être rappelés à la fin de l'année pour faire baisser la prime. Et ils se basaient... Alors, il y a des huissiers de justice qui sont passés. Donc, normalement, ils sont censés se baser là-dessus. Et quand on a demandé les rapports d'huissier, puisqu'il y avait eu des sanctions, on ne les a jamais reçus. Or, légalement, ils s'étaient obligés de nous les fournir. Et il y a des agents non grévistes qui se sont fait sanctionner, parce qu'en fait, l'huissier prenait une photo. Donc, à côté du feu, on voyait l'agent passer, mais qui allait à son travail. Hein. Mais comme il était sur la photo, sanction. Vous avez participé à la dégradation. Si on le voit jeter un pneu, je peux imaginer qu'on s'imagine quelque chose. La personne qui passe à côté. Mais comme ce n'est pas une sanction disciplinaire en soi, ça n'existe pas dans le travail, c'est pas une sanction, le rappel à l'ordre, on ne peut pas la contester au tribunal. On ne peut pas le contester au tribunal. Donc c'est pour ça qu'on fait très attention avec ça aujourd'hui, parce que, ben, comme il l'a dit, hein, quand ils ont fait le mouvement d'appliquer le règlement, la moindre incartade où ils pouvaient se rater, ils prenaient un rapport. Et autant un rapport, bon, en soi, comme je vous l'ai dit, c'est pas une sanction disciplinaire, donc c'est pas grave. À la fin de l'année, la prime carotte, ben, vous avez eu tant de rapports, 0%, 0 euros. Hein.
D'accord. Donc ils se débrouillent pour mettre mal le droit de grève avec leur chien de garde, huissier et autres.
Tout à fait.
Est-ce qu'il y a eu une caisse de solidarité pour ce mois de grève sans salaire ?
Oui.
Oui. À aucun moment dans les revendications, vous avez négocié le paiement de quelques jours de grève ?
Alors, ça arrive après les négociations. Donc, d'abord, trouver un accord sur les revendications. Et derrière, comment on sort de la crise? Donc, aujourd'hui, au moment où je vous parle, les éboueurs ont donné leur accord pour consigne. Et on devrait, logiquement, peut-être que c'est arrivé, mais le téléphone est coupé sagement, donc je ne sais pas, avoir un rendez-vous normalement rapidement avec l'administration, et c'est à ce moment-là qu'on va discuter. Monsieur Moudin, qui a été très clair dans cette interview, c'est cette interview d'ailleurs qui a fait la bascule sur la grève dure, puisqu'en fait, quand on est revenu bredouille des négociations, qu'on a parlé avec les éboueurs, leur réponse a été « Bon, maintenant, vous arrêtez de parler avec l'administration, vous en appelez à Jean-Luc Moudin ». Ils ont voté, ils nous ont dit « c'est ça maintenant qu'on veut, c'est M. Moudin et personne d'autre ». Donc, on a commencé à rédiger un courrier le matin même, sauf que au moment même où lui-même faisait ses vœux, dans lesquels il fait un article mais honteux, mensonger, déformé, enfin c'est lamentable hein, cet article, menace de privatisation, il explique que les syndicats ne savaient pas expliquer aux agents, alors c'est bête parce qu'on avait des écrits donc, de l'administration, donc après si les agents ne savent pas lire, c'est une insulte, enfin c'est pas qu'ils ne savent pas lire, hein, mais ça insinue qu'en fait ils ne savent pas comprendre et lire une feuille, quoi. Donc c'est encore une fois du mépris. Et il a été très clair là-dessus, et d'ailleurs on ne comprend pas, mais il disait, de toute façon, les jours de grève ne seront pas payés. Mais oui, comme d'habitude, on n'a jamais eu un jour de grève qui a été payé, donc si c'était le cas avant, qu'il me rembourse, hein, parce qu'il m'en doit un paquet. Donc oui, on le sait, et ça, à part faire du fonctionnaire bashing, ça sert à quoi? Ça insinue que d'habitude, bon, quand ils sont en grève, ils sont payés, mais c'est totalement faux. Un fonctionnaire qui est en grève n'est pas payé. Il perd son salaire et il perd de la prime. Voilà. Et s'il était à plus de 35 heures, il perd aussi des RTT. Voilà, c'est comme ça. Donc voilà, cet article vraiment était outrancier. Dire qu'on n'est pas venu à des réunions qui n'ont pas existé. Oui, on n'est pas venu quand on n'est pas invité, qu'il n'y a pas de réunion. Et voilà, et tout le long de l'article, ça a été ça. Donc quand les éboueurs ont lu ça, alors d'un côté, ils nous disent, en gros, bon, ben, notre dernier espoir, c'est de parler avec Moudin. Deux heures après, sort, de toute façon, je ne parlerai pas avec vous et je m'en fous, quoi. Alors là, ça fait exploser, et à juste titre, et c'est là que c'est parti en blocage dur devant cette réaction, en disant non, mais vous allez venir à la table des négociations.
D'accord. Est-ce que, à l'un et l'autre, votre avis personnel m'intéresse à l'un et l'autre, est-ce que vous trouveriez opportun de rejoindre cet après-midi à 14h les enseignants, les soignants? Jean-Marc?
Moi, je veux dire, moi, pour ma part, non, parce que c'est chacun son combat, après, même si on les comprend, mais parce qu'ils sont aussi de la fonction publique, mais après, c'est pas du tout les mêmes choses qui sont demandées par les uns et par les autres, donc on peut pas, même si on comprend leurs revendications, aux enseignants par rapport au Covid, mais je veux dire, les dépôts sont touchés aussi par le Covid, faut pas croire, on a été touchés par le Covid. Au tout début du Covid, il y a un jour où on n'est pas sorti, parce qu'il faut savoir quand même qu'on partait sans les masques, sans le gel, on partait sans rien, les camions n'étaient pas désinfectés. Donc ils nous envoyaient pendant le Covid, parce qu'on nous fait passer pour des feignants et tout ça, mais ils étaient bien contents de nous trouver pendant que personne ne sortait pendant 2 mois. Ils étaient bien contents de nous trouver pour pouvoir faire les poubelles et que tout soit propre. La seule crainte, c'était que le dépôt ferme. Ah, c'est ce qu'il faut savoir.
Et toi, Thomas, l'Interpro,
Bien évidemment, je soutiens nos camarades en lutte dans tous les domaines. Et alors malheureusement, je ne pourrai pas y être cet après-midi puisque j'ai d'autres interviews après qui s'enchaînent et potentiellement une réunion avec l'administration. Mais oui, ils ont tout le soutien de la CGT Toulouse Métropole. On sait que la destruction du statut de la fonction publique, c'est pas que celle de la fonction publique territoriale, mais aussi celle de la fonction publique d'État et comme hier, de la santé. Avant-hier, pardon. Merci. J'étais pris sur les dépôts, je suis désolé. Je ne vois plus le temps passer, là. Donc, oui, c'est toujours la même chose. Quand un hôpital ferme parce que, soi-disant, il n'est pas assez rentable, il y a une clinique privée qui ouvre à la place. Et là, bizarrement, les sous rentrent. C'est fou, quand même. Donc, tout ça fait partie du même ensemble. Et quand ils cassent aujourd'hui le statut de la fonction publique territoriale, ils cassent tout le système de retraite, toute la sécurité sociale qu'on a hérité du Conseil national de la Résistance en 1945, qui est le système qui faisait la force de la France, c'est-à-dire une solidarité entière entre tous les Français, avec une assurance de tous les accidents que l'on peut avoir dans la vie, c'est-à-dire de la naissance à la mort. Quand on est trop vieux pour travailler, l'assurance retraite. Quand on ne trouve pas de travail parce qu'il n'y en a pas assez, l'assurance chômage. Quand on est malade et que ce n'est pas un choix et qu'on ne peut pas travailler, l'assurance maladie. Voilà tout ce système de solidarité qui est lié à la fonction publique, hein, puisque c'était en même temps que la création du premier statut de la fonction publique, donc celui de la fonction publique d'État, qui assurait une neutralité, qui assurait que tous les Français devaient être servis par l'État de la même manière, et qui aujourd'hui est détricoté petit à petit. Quand on dit il y a trop de fonctionnaires, mais en fait, ce travail qui est fait, si ce n'est pas fait par un fonctionnaire, c'est fait par le privé. Et le privé ne fait jamais rien gratuitement. S'ils le font, c'est pour faire du bénéfice. Enfin, c'est le principe d'une entreprise privée. Donc si on confie un hôpital à du privé, ce n'est pas pour soigner les gens, c'est pour qu'il y ait de l'argent qui rentre. Si demain, on confie les éboueurs au privé, ce n'est pas pour nettoyer les rues. C'est pour faire payer dans vos impôts, aux Toulousaines et aux Toulousains. Si demain, les poubelles sont privatisées, vous aurez votre taxe d'ordure ménagère qui sera multipliée par 3. Il faut bien vous en rendre compte. Summertime ride through Philly, we coasting. Me and my gang, we floating, we focused. I don't want no daily, want no weak emotions. We about to drop, we ready, we loading. I've been giving money so the rent never late. Yellow G-Shock, I'm fashionably late. All white milk, I'm making it shake. They won't understand, so I never debate. Broad Street bully, cause the car got hips. Tape been done, all play, no skips. Walk in closet, I could do 3 flips. I'm a dorm nasty like sugar and grits. Yeah. Nick got the cam, he witnessing greatness. Low tolerance, but I'm so high maintenance. Chrome hard store, we shopping in Vegas. Old friend stuck, they shocked, she made it. North Philly zone, I'm a guide to the children. I just play my role as the hero and the villain. Y'all want millions, we want billions. Y'all want millions, we want trillions. Mama so proud, I don't owe you niggas nothing. I be just chillin', they like, why you stunting? Watch out for the snakes, they do you greasy. Yeah, I be with my cousin, that's my little Yeezy. Yeah, I'll be there for him if he ever do need me. Yeah, on a nigga head like a white boy beanie. Yeah, walking in the hood and I do it so freely. Yeah, now y'all see my sun boots sitting in a genie. Yeah, mountain valley water, I'm sipping it cleanly. Yeah, fancy restaurant, we eat the zucchini. Yeah, might settle down, depending on how you treat me. Yeah. Hard body, baby, but I'm making it look easy. Y'all want millions, we want billions. Y'all want millions, we want trillions. Y'all want millions, we want billions. Y'all want millions, we want trillions.
C'était la rappeuse états-unienne Tyra Wack avec Millions sur Canal Sud 92.2. Peut-être en conclusion de cette émission, on va remercier Jean-Marc et Thomas d'être venus en parler avec nous dans ce magazine. Il y a aussi... pour peut-être parce que des fois les podcasts ont une vie dans le futur, faut bien se rendre compte que pendant un mois là le visage de la métropole a été complètement transformé. En plus, c'est aussi assez dingue de voir la posture qui a été maintenue par Moudenc, alors même que justement cet amoncellement là d'ordures sur les trottoirs en pleine pandémie, ça ne faisait que on va dire renforcer cette certitude de l'utilité. En fait, tout à l'heure on parlait de la pénibilité, mais l'utilité sociale en fait aussi des éboueurs apparaissait d'autant plus flagrante pendant ce mouvement de grève et ouais, donc c'est assez affligeant en fait de voir aussi la réaction qu'il y a eu du côté de la direction. Bon, voilà, c'est ce que je voulais dire.
Merci à vous. Vous êtes debout depuis tôt ce matin. Je le sais, on s'est croisés sur le dépôt à 6h30, 7h. Merci, reposez-vous bien. Bonne suite.
Merci à vous. Merci. Et merci à toutes celles et tous ceux qui ont donné dans la caisse de grève. Donc les sous servent actuellement à rembourser tous les repas que les éboueurs ont payés quand ils se maintenaient sur les piquets de grève.
Est-ce qu'il y a des petites coordonnées ? Je crois qu'il y a une caisse de grève sur Internet.
Oui, alors il y a une caisse de grève sur l'application Lydia, pour ceux qui veulent le faire depuis le téléphone portable. Vous pouvez le retrouver sur les Facebook d'à peu près tous les syndicats de l'intersyndicale. Et sinon, comme toute caisse de grève classique, vous avez la possibilité, alors plus sur les dépôts maintenant, vu qu'ils vont être réouverts, mais de passer dans chacun des syndicats et de faire un don en précisant que c'est pour la caisse de grève. Et chaque syndicat reverse cette somme directement à la caisse de grève.
D'accord.
Merci beaucoup à vous. Et nous, on se retrouve après une courte pause musicale. C'est parti.
J'ai brûlé mes neurones sous les réverbères, sous les réverbères.